peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h30 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors, en selle pour 25 minutes.
En selle.
Alors, on va commencer par prendre le cheval au mot, et aujourd'hui, ce sera le mot Palefroid.
Ah, à ce propos, puissant destrier ou gracieux Palefroid, c'est du bruit de leur fer que résonnent jusqu'à nous les temps féodaux, l'écho lointain des tournois, des légendes et c'est des batailles. C'est évocateur, ça.
C'est très évocateur, Jean-Yves. Alors, dans son roman Perceval le Gallois, Gerbert de Montreuil, un poète du XIIIe siècle, décrit les noces du chevalier Perceval et de Blanchefleur. Alors, on va rêver un peu. Toute la ville était pleine de chevaliers. La foule joyeuse, menant grand bruit, s'est assemblée devant le palais. Tous attendaient avec impatience l'arrivée de Perceval, qui s'avance à cheval dans la grande rue, suivi de Blanchefleur. Juste à l'entrée du portail, Perceval saute de son destrier, court les bras tendus vers la jeune fille et la dépose à terre. Quand le mariage eut été célébré, la foule laissa éclater sa joie et retourna au palais. Il y eut grand divertissement. Les jongleurs chantèrent en s'accompagnant sur la vielle. On dressa des tables et les gens s'assirent pour festoyer. Alors, par opposition au destrier, qui est le cheval de bataille, le palefroid désigne à la fin du XIe siècle un cheval utilisé pour voyager.
Un cheval un peu plus léger.
Alors, le mot est ancien. Il apparaît dès les premiers siècles sous la forme latine veredus pour qualifier un cheval de chasse. Au point de départ, c'est un cheval de chasse. Au IVe siècle, le poète et grammarien latin Decimus Ozone l'utilise en parlant d'un cheval de poste. Le mot se transforme dans l'ancien provençal en palafrègne que l'espagnol médiéval s'approprie sous la forme palafré. Alors, à la différence du cheval de guerre, le palefroid est un cheval calme et endurant. Et entre le XIIe et le XVIe siècle, il devient le cheval spécialement destiné aux dames. Vraiment, c'est le cheval voilà, qui abandonne un peu le chevalier.
C'est un bon cheval de randonnée. C'est
un bon cheval de randonnée.
Qui n'a peur de rien, qui passe partout et qui va dans une allure normale.
Alors, comme le destrier ou la haquenée, palefroid n'est plus un mot utilisé de nos jours. C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup. On parle d'une jument, mais on ne parle pas tellement d'un palefroid. Mais il reste toutefois un témoin du riche langage équestre de l'époque médiévale. C'est vrai que quand on se met dans les vieux bouquins, on voit un langage équestre qui est absolument extraordinaire.
Mais dans le médiéval, le cheval était roi. C'était vraiment un personnage extraordinaire, le cheval.
C'était un personnage extraordinaire.
Sanctifié.
Alors, la semaine dernière, le messager du cheval a évoqué ce que les historiens considèrent comme la première grande bataille de l'Antiquité, avant Marathon, la bataille de Kadesh, il y a un peu plus de 3500 ans. L'Égypte de Ramsès II et le royaume hittite, dirigé par le roi Mutawat Ali, cherchent à contrôler les voies commerciales, mais également les ressources de matières premières de la Méditerranée orientale et de l'Asie mineure, en particulier les mines d'or de l'ancienne Colchide, dans l'actuelle République de Géorgie, qui est située entre la mer Noire et les monts du Caucase, et mines dont l'exploitation remonte à plus de 5000 ans avant notre ère, et dont viendrait la fameuse toison d'or. Pourquoi toison d'or, que les argonautes étaient allés chercher? C'est que la poussière d'or était, récupérée dans des sur des peaux de mouton avec le poil.
Oui,
et donc, effectivement, devenait brillante. D'où le mythe de la toison d'or. Alors, nous avons laissé l'armée de Ramsès II remonter la côte méditerranéenne, palestinienne, puis phénicienne. Nous sommes en mai ou juin 1274 avant notre ère et Ramsès II a 26 ans. Alors, cette armée est composée de 4 divisions d'infanterie. Chaque division porte le nom d'un dieu. Il y a celle d'Amon, le dieu à tête de bélier que tout le monde connaît, celle de Re ou Ra, le dieu surmonté du disque solaire, celle de Ptah, le dieu des artisans, enfin celle de Seth, représentée sous la forme d'un lévrier et plus tard sous la forme d'un crocodile. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, les Égyptiens ont divinisé beaucoup, beaucoup d'animaux, l'hippopotame, le crocodile, le singe, le hanneton, etc., mais n'ont jamais divinisé le cheval. Ils ont divinisé le chat aussi, mais jamais le cheval.
C'est... Pourtant, l'emblème des samouraïs, c'était le cheval.
Oui, mais je parle des Égyptiens, voilà, c'est cela. Oui, ils ne l'ont jamais divinisé.
Dans les chevaliers avaient tous leur cimier et s'identifiaient à une bête. Une bête bêtes sauvages.
Bien sûr, oui, oui, c'est vrai. Alors, chaque division d'infanterie comprend 5000 combattants. Alors, sur les 5000 combattants, il y a 1900 soldats égyptiens et épaulés par 3100 mercenaires recrutés parmi les nomades des déserts entourant l'Égypte. Donc, vraiment, c'était une majorité de mercenaires. Ou encore les Chardanes, qui est un peuple venu d'Asie mineure, qui s'installeront par la suite dans une île italienne que nous connaissons bien et à laquelle ils donneront leur nom, la Sardaigne. Chardanes, Sardaigne. Les soldats reçoivent un salaire sous la forme d'une rente. Donc, c'est pas le sel des Romains, mais reçoivent un salaire. L'armée dispose aussi d'escadrons de chars, c'est l'arme des nobles. Ces derniers en sont propriétaires et responsables devant le pharaon. Leur construction, réalisée dans l'arsenal de Memphis, qui se trouve à 30 km au sud du Caire, le Caire n'existait pas à l'époque en tant que capitale, donc Memphis était une très très grande ville, donc c'est assez près du delta. Et donc, ces chars obéissent à un standard précis. Elle est supervisée par le grand palefrenier des casernes royales que l'administration égyptienne nomme les étables à chevaux. Donc on ne parle pas de caserne, on parle d'étables à chevaux. Donc ce qui veut dire que le cheval est quand même très très important. Et le char, bien évidemment. Mais reprenons le récit de cette expédition. À la tête de la division d'Amon, Ramsès, précédé de ses officiers supérieurs qui encadrent un grand char sur lequel est fiché un pieu à tête de bélier, suivi par une partie de la famille royale, dont ses deux grandes épouses, décide de se rapprocher le plus vite possible de Kadesh. Les Égyptiens connaissent bien cette région et la progression est rapide. Ramsès est d'autant plus incité à aller vite que deux déserteurs hittites lui ont appris la veille que le roi Mutawatali, donc le roi des Hittites, s'est retiré vers la ville d'Alep au nord de la Syrie. Pour le pharaon, la voie est désormais libre. Il décide alors par une incompréhensible imprudence, vraiment, les historiens vraiment ne comprennent pas, peut-être même sans consulter ses officiers, de ne pas attendre l'arrivée des trois autres division égyptienne, de passer au plus vite le fleuve Oronte et de lancer l'assaut sur Kadesh avec la seule division d'Amon qu'il commande. Alors arrivé au nord-ouest de la cité hittite, il installe son camp royal qu'il faut se représenter comme une véritable ville en marche. C'était plus que militaire, c'était vraiment, il y avait beaucoup de monde. Alors un espace est choisi, c'est un grand rectangle délimité par une palissade constituée par les boucliers des soldats dressés les uns à côté des autres. Frêle défense a priori, si l'on se réfère aux fortifications de pieux et de fossés que les légions romaines érigeaient pour se protéger. On l'a vu, hein, les Romains faisaient du costaud. Alors l'entrée du camp sur le petit côté ouest est encadrée par deux poteaux surmontés de deux statuettes qui représentent deux lions couchés, autrement dit ce qu'on appelle des sphinx. Un sphinx, ouais, c'est un lion couché. Elle est gardée par des soldats armés de piques. De là, une allée conduit à la grande tente royale qui est rectangulaire et partage, donc cette allée partage le camp en deux. Aux côtés de la grande tente sont dressées trois tentes plus petites, certainement destinées aux princes royaux. Alors on n'en est pas sûr, les historiens en sont pas sûrs, mais pensent quand même qu'à côté de la tente royale, c'était un petit peu pour la famille, la famille du pharaon. Alors l'activité dans le camp est animée, les chevaux sont attachés devant leur mangeoire. Alors ça on le voit très bien, parce que les Égyptiens et l'épopée de Ramsès, c'est un petit peu comme une bande dessinée dans les temples, c'est-à-dire que c'est à la fois gravé, sculpté, peint, et surtout il y a les textes en hiéroglyphes. Donc vraiment, on voit très bien ce qu'ils ont voulu faire. Les équipes de palefreniers veillent sur les chevaux, soignent les blessures et les promènent en main. On voit tout ça qui est sur les documents. D'autres chevaux restent en attente auprès des chars, prêts à être attelés en urgence. À côté, les ânes et les bœufs de trait ou de bât récupèrent des efforts de la journée, les uns debout qui broutent et d'autres couchés. De nombreux enfants assument les multiples corvées, une sorte d'enfants de troupe en fait, et l'entretien des armes et des chars, les soins aux animaux, la préparation des repas, mais également le rôle d'infirmier. En fait, on voit des blessés qui sont soignés par les enfants. Au centre du camp se tient le lion de Ramsès, donc le lion vivant, qui est couché et langue pendante. Tout ça est très réaliste, et devant lui, un dresseur peaufine son éducation à l'obéissance. On le voit, le dresseur devant le lion en train de brandir un bâton. Mais les choses vont se gâter. C'est ce que le messager du cheval va vous conter maintenant après une pause musicale de Doors Salt Kitchen.
Said it's time to close now. I guess I better go now.
Alors revenons au camp qu'a fait établir Ramsès II. Alors soudain, une grande rumeur se lève devant la palissade orientale du camp. Chacun abandonne sa tâche, saisit une arme et court là d'où viennent les cris. Une nuée de charitites vient de bousculer les premières défenses égyptiennes et cherche à encercler la tente du pharaon. La ruse de Mouta Ouattali a fonctionné. Loin d'être parti dans le nord de la Syrie, comme il avait assuré à Ramsès par ses deux soi-disant déserteurs, le roi hittite, tapis avec une partie de son armée dans les forêts derrière Kadesh, a guetté le moment favorable pour lancer deux attaques. L'une contre le camp de Ramsès et l'autre contre la division égyptienne de Ré qui vient de passer le fleuve Oronde pour rejoindre la division royale d'Amon. Tout semble perdu pour les Égyptiens. Là, ça va pas du tout bien. La réaction de Ramsès est alors fulgurante. Ça, c'est extraordinaire. Autant il a pu se montrer imprudent, trop confiant, autant il fait preuve à ce moment d'un incontestable génie militaire. Évitant de stigmatiser les négligences de ses espions, donc il commence pas à engueuler tout le monde, il envoie vers ses autres divisions son grand vizir, accompagné de messagers pour leur ordonner d'arriver aussi vite que possible. Mais déjà, la division de Ré vient d'être coupée en deux par les Hittites, et seuls quelques survivants essayent de rejoindre le camp de Ramsès. Donc celle qui était là, le plus près s'est fait méchamment disloquer. Le pharaon prend alors une décision qui s'avérera décisive. Il se souvient qu'il est le fils de Ré, que son nom de naissance est Usermatré Setemperé, donc chaque fois Usermatré, Ré, Setemperé, Ré, donc qui veut dire en égyptien le choisi de Ré. Il est persuadé qu'une fois sur son char, il ne sera plus un simple mortel qui combat, fût-il le pharaon, mais le dieu Ré en personne. Et ça, il le croit. Après avoir fait évacuer sa famille, Ramsès réunit sa garde rapprochée et demande à son écuyer Mena d'atteler son cheval avec ses deux chevaux favoris, Victoire dans Thèbes et Mout est satisfaite. On connaît le nom des chevaux. Une fois sur son char, il noue les guides autour de ses reins et se saisit de son arc. N'ayant plus la responsabilité de conduire l'attelage, Mena prend place derrière le pharaon pour le protéger avec un bouclier et lui passer les flèches au fur et à mesure. Dans une sorte d'état second, illuminé par la rage de combattre, Ramsès se jette en hurlant au plus épais des troupes hittites et décoche flèche sur flèche. Ses cris et son exaltation déchaînent l'ardeur des deux chevaux. Eux aussi ont décidé de se battre. Ils se jettent sur les chars et les chevaux ennemis, renversent les premiers et mordent avec furie les seconds, piétinent les soldats morts ou blessés. Et ça, les chroniqueurs disent, c'était incroyable, c'était un espèce de dieu avec
une furie collective.
Alors Ramsès charge à 6 reprises. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à briser la résistance hittite. Il est sur le point d'être submergé quand il voit brusquement les rangs ennemis se clairsemer. Ce coup de théâtre est provoqué par l'arrivée à point nommé de l'armée des Néharines, un peuple sémite allié aux Égyptiens. Ça, c'est vraiment le coup de bol. Ils sont arrivés au bon moment. Alors, ce sont des combattants expérimentés et disciplinés. Ils manœuvrent en rang serré, bouclier contre bouclier, un peu à la manière des Romains, qui formaient la tortue.
Oui,
voilà,
ils
manœuvrent un petit peu de la même façon. Alors, ils ont aussi des chars, ils sont encadrés par des chars. Alors, immédiatement, ils n'attendent pas, ils prennent en tenaille les chars hittites, réussissent à dégager le pharaon et libèrent son camp. Alors, profitant de ce répit, l'armée égyptienne, toujours épaulée par les Néharines, se ressaisit et entame la poursuite de l'ennemi. Parce que l'état-major ne voulait pas y aller. Ouais. Et n'y est pas allé. C'est pour ça que Ramsès II a voulu monter l'exemple, ce qui ne les a pas décidés. Et alors, en punition, parce que c'est un crime majeur de ne pas aller au combat, donc normalement ils auraient dû être tués, il a fait pire. Hein. C'est-à-dire que dans toutes les relations qu'il a faites, dans son fameux bulletin militaire, il se contente d'une seule chose, c'est de ne jamais nommer ses officiers. L'anonymat, qui était pire que la mort.
Oui.
Voilà, on ne parle pas d'eux. Alors, la division de Ptah arrive enfin accourue à marche forcée sous le commandement du grand vizir, ce qu'il avait envoyé, qui était parti les chercher. Ce sera le dernier acte de cette bataille. Son bilan est effroyable. Le bulletin militaire fait état d'un amoncellement de cadavres d'hommes et de chevaux. Les chars hittites rescapés sont repoussés au sud de Kadesh, près du gué de l'Oronde, ce fleuve régional. Ils essayent désespérément de repasser le fleuve, mais le désordre est total. Beaucoup d'hommes et de chevaux se noient dans la cohue. Le chroniqueur disait, ils se jetaient à l'eau comme des crocodiles, tu sais, à toute vitesse, voilà, comme ça. Alors, au soir de la bataille, le pharaon ordonne de connaître le nombre des ennemis tués. Alors, comment on fait? Ben, on coupe la main gauche de chaque cadavre. Ses mains sont empilées en plusieurs tas devant Ramsès, puis soigneusement décomptées par les scribes qui notent, voilà, c'est combien de mains gauche, donc combien de morts. Enfin, si les corps des simples soldats égyptiens sont enterrés sur place, là, effectivement, ça se fait assez simplement, les corps des officiers de haut rang reçoivent un début de modification dans du sel, hein, donc on les sale, en quelque sorte.
Pour conserver.
Voilà, qui permet de les rapatrier jusqu'en Égypte sans trop de dégâts. Il faut pas oublier que cette histoire se passe en plein été, hein, quand même. Donc, la Syrie en plein été, il fait chaud. Et toute la côte méditerranéenne également. Alors, malgré cette victoire, Ramsès renonce à prendre Kadesh, finalement. C'est un peu une victoire en demi-teinte. La citadelle est redoutable, bien défendue par 20 000 soldats, ce qui fait quand même pas mal, et l'armée hittite encore puissante. En fait, elle n'a pas été détruite. Elle a été défaite, mais elle n'a pas été détruite. Et le point final sera mis 4 ans plus tard, en 1278 avant notre ère, par la signature d'un traité de paix entre Ramsès, donc l'Égyptien, et Mutawatali, donc le roi des Hittites. Donc finalement, après cette guerre, c'était la négociation, puis le traité de paix. Alors pour en savoir plus, Ramsès II, la véritable histoire de l'historienne et archéologue Christiane Desroches-Noblecourt, et c'est au livre de poche. Alors Jean-Yves, c'est à leçon, on arrive, la jambette, deux choses, la jambette, le pas d'école, et la troisième chose, le pas espagnol. Alors est-ce que tu peux nous remettre tout ça dans l'ordre?
Mais d'abord la jambette, il faut que le cheval puisse tendre son membre antérieur droit ou antérieur gauche, et le soutien se soutienne, quoi. Il monte son épaule et il monte son bras. Donc ça, c'est la jambette, c'est le début. Après, le pas d'école, bon, on n'a pas besoin de la jambette pour le pas d'école, c'est un pas cadencé, un pas à quatre temps, voilà, postérieur droit, antérieur gauche, et puis après, bien sûr, le pas espagnol, alors ça, c'est une allure complètement néfaste et artificielle.
Alors tu peux nous expliquer pourquoi?
Interdite, parce que dans le pas espagnol, le cheval ne donne pas la bouche, il lève sa tête en l'air, il dit non, il dit zut, il se creuse dans le dos et il lâche dans ses postérieurs, il ne pousse pas. Donc il n'est pas dans le bon mouvement, il n'est pas dans une allure naturelle.
Pourtant les Espagnols l'utilisent beaucoup, peut-être
oui,
moins maintenant.
Oui, un peu trop, parce pour le bien-être des chevaux, mais bon, c'est une allure.
Pour toi, c'est une allure que tu réprouves.
Non,
fait,
c'est ça. Il faut mimer le cheval, il faut respecter ses airs naturels et ne pas lui faire des trucs complètement. Par exemple, je suis un peu contre l'amble qui démolit le dos et le rein aussi également. L'amble, c'est une allure artificielle aussi également. Qui est en prise aux chevaux.
Sauf certains poneys qui l'ont, comme les poneys fjord.
Ah non, mais ils l'ont parce qu'ils ont mal aux reins et que les trotteurs, par exemple, quand ils ont beaucoup trotté, quand ils ont mal aux reins, ils font l'amble.
Ils se mettent dans l'amble. Ou le traquenard, des fois, ils trottent devant et voilà. Ils trottent derrière et ils galopent devant. Voilà, c'est
il faut
ça,
rester dans les allures naturelles pour que le cheval se
donc, pour
bien.
Toi, effectivement, si je comprends bien, la base quand même de l'équitation, c'est de travailler le cheval dans le bon sens, c'est-à-dire sans aller.
Dans le consentement du cheval, c'est-à-dire donnant la bouche.
Donc, moralement.
Moralement. Et puis, ne pas le détériorer physiquement aussi, parce que tout s'ensuit. Parce que quand le cheval a mal, ben, il perd le moral, il n'a plus l'envie de communiquer et il essaie de s'échapper par toutes les manières. Quand un cheval a une mouche qui le pique sur le dos, il passe sous un arbre, sous une branche pour essayer de s'enlever la mouche.
Voilà.
Il sait très bien le faire. Donc quand un cavalier le gêne, c'est exactement
quand il a un cavalier moucheron, voilà,
il commence à fouiller de la queue pour prévenir.
Oui.
Et puis après, ben, il fait quelque chose.
Et pour... justement, à ce propos, je crois que dans les concours de dressage, foyer la queue, un cheval qui foye la queue, c'est une pénalisation.
Bien sûr, oui, parce qu'on comprend que le cheval ne se plaît pas avec son cavalier sur son dos, ne se plaît pas dans son air, et qu'il est gêné quelque part. Alors donc, on pénalise.
On pénalise, voilà. Moi, j'ai remarqué aussi que dans le temps, dans les concours de dressage officiel, olympique ou autre, les chevaux sur les aires relevées, finalement relevaient assez peu. J'ai le souvenir de piaffer où véritablement les membres du cheval se levaient peu. C'était très rasant, finalement, quand on voit un piaffer comme tu les pratiques, où véritablement il y a une amplitude et qu'on retrouve du reste dans les gravures
Mais il faut que le cheval se plaise.
17e siècle. Où vraiment il y a beaucoup d'amplitude, voilà. Le cheval...
Il faut que le cheval se plaise, et quand il se plaît, il le dit, il se place, il est content, et il est heureux de s'exprimer. Alors que quand c'est le contraire, quand il a mal, il le dit aussi, ça fait partie du langage du cheval. Et quand il faille la queue, il dit j'ai mal.
D'accord. Alors, c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les longs chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux, c'est vrai que le cheval est peureux, et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui, non, hein, Jean-Yves, tu ne nous démentiras pas, pour s'en servir, mais pour le servir. Et ça, disons, les droits d'auteur, il faut les envoyer à Jean-Yves Bonnet. C'est son expression qu'il a forgée. Alors, sur CFM Rodez, 107.9, et sur CFM Villefranche-de-Rouergue, 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr, à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Chevaliers, alliant des fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non. Hey, hey, marche droit et souris, ton cheval est un ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du sel, d'aigle mort. En passant par Salmière, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Mione, les Vézoux, Salmière, le milieu du sel, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue de Rodez.